Merci beaucoup, Benjamin. Bonjour à vous tous. J'ai envie aussi de dire, juste avant de se replonger dans cette magnifique histoire d'Isaac, d'Abimelech, de Dieu, des promesses, juste pour vous rappeler aussi que nous avons ici le dimanche matin environ toutes les semaines, 5 places disponibles. Nous avons l'équipe technique ici. Il y a une dizaine de personnes dans l'ensemble ici présentes, mais ça laisse encore 5 places. Et donc, si jamais vous avez envie de venir, il suffit de juste nous envoyer un mot le matin même ou le week-end, juste pour demander s'il y a une place, parce que normalement, il va y en avoir. Et donc, c'est un peu dommage pour nous de pouvoir accueillir jusqu'à 15 personnes, mais d'être uniquement une dizaine de personnes. Donc, profitez-en, chers amis, pensez-y, et comme ça, nous pouvons être au maximum selon les consignes. Évidemment, on porte des masques ici, on respecte les consignes, mais c'est un moyen de pouvoir voir de temps à autre quelques personnes de l'Église. Donc, je sais que nous avons déjà prié, mais je propose quand même qu'on prie une nouvelle fois, que vous ayez cette histoire sous les yeux. Ça va vous aider. On aura peut-être à un certain moment, je ne pense pas, le texte sur l'écran, donc c'est mieux vous-même de trouver le texte pour que nous puissions suivre ce que Dieu a à nous dire. Donc, je vous invite une nouvelle fois à la prière. Seigneur, ta parole est ta vérité. Et par ton esprit, tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions contempler la gloire de Jésus-Christ. Et donne-nous de faire cela aujourd'hui à travers ce texte, Genèse chapitre 26. Merci que cette parole se trouve dans ta parole. Et donne-nous d'en comprendre le sens et de vouloir obéir à notre tour ce que toi, tu nous dis. Et nous te demandons cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Peut-être vous vous souvenez des propos de Jésus quand il disait ceci. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il le renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, il continuait, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servir a-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Oui, Jésus ici soulève que tôt ou tard, il faut faire un choix. Un choix coûteux, selon lui. Un choix de mettre mon adhérence à Jésus-Christ, à son évangile, sa bonne nouvelle, à son peuple, avant toute autre chose dans ma vie, avant mes projets professionnels, avant mes désirs relationnels, avant mes ressentis personnels. Moi, je pense à un ami que je connaissais depuis un bon bout de temps qui a poursuivi un poste professionnel qui l'éloignait d'un engagement régulier au sein d'une église locale. Je pense à un autre ami qui, lui, vendait de la drogue pour gagner un peu plus d'argent en noir, qui a découvert la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'allait-il faire en conséquence? Je pense aussi à moi-même, au moment où je devais faire face un peu à ma crainte de ceux qui étaient autour de moi. En tant qu'étudiant, je me retrouvais dans un grand cercle d'amis et eux, ils voulaient tous, une trentaine de personnes, que je boive à l'excès avec eux. À un moment donné, nous sommes face à un choix coûteux. Suivre Jésus, il le dit, on est perdant, en fait. Mais ironie profonde au sein de la foi chrétienne, si nous sommes perdants, nous sommes pour finir gagnants. Les bénéfices de la foi sont là, réellement là. Jésus parle de sauver notre vie, sauver notre âme, se procurer alors d'une vie qui ne termine jamais. Jésus nous invite à faire une analyse coût-bénéfice. Oui, dit-il, il ne faut pas être aveugle quant au coût, mais il faut également être lucide en ce qui concerne les bénéfices de la foi chrétienne. Et le texte de ce matin, c'est une histoire qui nous pousse à agir en conséquence de la bénédiction que Dieu donne à tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, sont héritiers des promesses de Dieu, promesses que Dieu avait données au départ à Abraham et à ses descendants. Cette bénédiction qui est mise en avant dans ce texte ce matin nous pousse à vouloir en bénéficier nous-mêmes. Oui, c'est une histoire d'Abraham, d'Abimelech, de Dieu, une histoire donc de foi, de crainte, de difficulté, mais surtout une histoire de bénédiction. Car Isaac, le fils d'Abraham, commence dans ce texte-ci, dans ce chapitre 26, à voir la réalisation de cette bénédiction promise. Cette histoire se trouve donc intercalée, peut-être vous voyez cela, entre l'histoire des fils d'Isaac, Ésaü, Jacob, parce que c'est cette bénédiction-là que cherche Jacob, que méprise Ésaü. Et cela donc met en relief la bêtise d'Ésaü que nous avons vue la semaine dernière. Cela explique la ruse de Jacob que nous allons encore voir la semaine prochaine au chapitre 27. Et cela nous pousse à notre tour à être conscients de la bénédiction qui accompagne le peuple de Dieu. Cela nous encourage, nous, à faire la plus grande priorité de notre vie, cette bénédiction qui découle de Jésus-Christ. Alors, nous allons procéder, comme nous l'avons fait la semaine dernière, en parcourant l'ensemble de l'histoire. Et ensuite, nous allons terminer avec trois leçons pour nous, tirées donc de cette histoire. Alors, l'histoire donc commence avec une famine dans le pays. Oui, c'est difficile, une famine. On vient de chanter cela dans ce chant pour les enfants, n'est-ce pas? Verset 1 nous précise le texte. Ce n'est pas la même famine qui avait lieu au jour d'Abraham. Évidemment, si nous avons lu Genèse 1 à 25 juste avant, nous serons conscients qu'il y avait une autre famine au chapitre 12, là où Abraham, lui aussi, en Égypte, faisait passer sa femme, très belle, Sarah, comme étant sa sœur. Donc, il y a des similarités entre cette histoire et des histoires déjà qui ont eu lieu dans ce livre. D'autres détails confirment qu'il y a allusion ici à Abraham, car Isaac, comme Abraham, seront où lors de cette famine? Chez Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. C'est peut-être dans le même Abimelech qui apparaît au chapitre 20 et 21 de la Genèse, mais ce n'est pas certain. Que dit le Seigneur qui apparaît à Isaac par la suite? Verset 2. « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en immigré dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai aussi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme des étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. » Alors là, c'est une répétition en grande partie des bénédictions promises déjà à Abraham dans les chapitres 12, 15, 17, 22 de la Genèse. Il y aura donc une descendance très grande pour Isaac, comme les étoiles du ciel. Dieu donnera tous ces pays et toutes les nations de la terre donc seront bénies par cette descendance. Et dans ce récit, Isaac, nous le verrons, commence partiellement en tout cas à voir la réalisation de ses promesses. Verset 6. Comment réagit Isaac? Il obéit à cette promesse. À l'instant, oui, de l'obéissance de son père Abraham à son tour. Et donc, il s'installe à Guérar. C'est très bien. Mais à Guérar, c'est là où il est entouré, Isaac, par des Philistins. Et cela fait un peu peur d'être entouré par des Philistins, vous savez. C'est comme si vous sortez d'un café à Paris à minuit, le samedi soir, et tout d'un coup, vous êtes entouré par le 15 de l'équipe de France, et des rugbymen. Et vous êtes accompagné par votre jeune femme. Et votre femme, elle est très jolie. À ce moment-là, ça fait un peu peur, non, de se retrouver dans une telle situation. Oui, ce n'est pas moi qui dis que votre femme, elle est belle, parce qu'ici, le chapitre 24 nous a déjà présenté Rebecca, la femme d'Isaac, comme étant une femme très belle. Et donc, face à cette crainte chez les Philistins, que fait-il, Isaac? Il prétend, comme faisait son père à lui, Abraham, à deux reprises d'ailleurs, que Rebecca est sa sœur et pas sa femme. Quelle est sa motivation? Verset 7. Il avait peur de dire « c'est ma femme », de crainte que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rebecca. Quelle décision décevante, n'est-ce pas? Afin de protéger sa propre peau, il met en danger la peau de sa femme. Et il ne se soucie pas non plus pour l'honneur des autres hommes. C'est méchant. Cela met son propre intérêt en avant celui des autres. Et pourtant, Isaac, il s'agit d'un croyant, un croyant dont Dieu vient de promettre qu'il sera avec lui, qu'il le bénira, oui, même lorsqu'il est chez les Philistins. Et donc, c'est triste, d'autant plus que le récit souligne, je pense, ici, le caractère exemplaire d'Abimélec, le roi philistin, qui est ensuite mis en avant. Et c'est toujours triste, cela, n'est-ce pas, de constater que le comportement d'un non-croyant est plus juste, en quelque sorte, surpasse le comportement des croyants. Vous vous souvenez de l'époque, peut-être lointaine, quand on faisait des agapes ici, dans ces locaux, il y a à peu près 2000 ans, il me semble. Cela m'a toujours attristé de voir des visiteurs parmi nous, polis et patients, qui n'étaient pas soucieux de prendre la dernière partie du seul plat qui avait l'air d'être d'une bonne qualité, souvent le plat cuisiné par Katharina Fiofari, tandis que les gens de l'Église faisaient comme des abeilles autour du miel pour ne pas être privés de leur partie de ce plat. C'est difficile de voir un tel comportement, n'est-ce pas? Cela, pour Isaac, a duré pour un bon moment, d'ailleurs, selon le verset 8, jusqu'à ce que Abimélec observe par la fenêtre un moment intime entre Isaac et Rebecca. Et là, Abimélec, lui, il réagit en conséquence. Il appelle Isaac, il lui demande comment il a pu concocter une histoire pareille, verset 10. « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. Tu nous aurais mis en tort. » Et il a raison, bien sûr. Et donc, de manière honorable, il clarifie la situation en donnant un ordre à son peuple. Il ne faut pas toucher à Isaac ni à sa femme. Mais malgré cette action peu glorieuse de la part d'Isaac, la suite du récit démontre sa réussite lorsqu'il est chez les Philistins. Il se met dans ce pays et il récolta, nous dit le texte, au centuple cette année-là. Moi, vous le savez, je suis très loin d'être un agriculteur, mais je me souviens de la parabole du semeur que Jésus avait raconté. Il disait que la semence qui tombait dans la bonne terre aura un fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc 100, c'est tout en haut de la liste, n'est-ce pas? C'est une récolte remarquable. C'est comme si vous venez de recevoir dans votre compte en banque votre pécule de vacances, votre 13e mois, qu'au lieu d'être l'équivalent d'à peu près un mois de salaire, s'élève à 100 fois de plus. Vous imaginez cela? Ce serait une bonne fin d'année à ce moment-là. 2000 euros transformés en 200 000 euros sur votre compte. Vous serez en mesure de nous aider à ce moment-là avec le projet bâtiment que nous allons bientôt entreprendre ensemble, dont vous allez entendre parler dans le mail que nous allons vous envoyer cet après-midi. Mais quelle est la source donc de cette réussite? Fin du verset 12, le Seigneur le bénit. Oui, il devint riche et il s'enrichissait de plus en plus. Il devint très riche. Et oui, cela au cours du temps a quel effet chez les Philistins? Cela provoque de la jalousie. Et de là vient des ennuis. Les Philistins donc bouchent les puits creusés à l'époque d'Abraham, Abimélec, renvoie Isaac de chez lui. « Tu es devenu, il lui dit, trop puissant pour nous. » Ça, c'est le côté un peu dur d'Abimélec, n'est-ce pas? Un homme d'honneur d'un certain côté, mais d'un autre côté, un homme d'affaires qui n'hésite pas de prendre la décision difficile. « Tu es la bienvenue ici, Isaac, mais pas à un point que tu deviennes aussi puissant que cela. » Et donc, Isaac est contraint de partir de Guérar. Il se met dans la vallée de Guérar. Mais ce n'est pas encore terminé avec des ennuis, car il creuse des puits creusés à l'époque de son père. Et au verset 19, ces hommes trouvent un puits d'eau vive. Et qui dit à cette époque-là d'eau vive, dit une terre féconde, dit donc une grande récolte, dit donc bénédiction de la part de Dieu. Mais verset 20, les bergers de la région portent plainte, se disputent par rapport au plan, et le puits donc est appelé, avec une couche d'humour, je pense, de la part d'Isaac, dispute, et il s'en va. Verset 21, rebelote. Le deuxième puits s'appelle donc opposition. Verset 22, il se déplace une nouvelle fois. Et là, le troisième puits est construit et s'appelle largeur, large espace. Car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. La suite du récit, c'est une confirmation de la prospérité d'Isaac. Car le Seigneur confirme une nouvelle fois, verset 24, sa promesse à Isaac. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Donc, Isaac fait de cet endroit sa demeure. Et ses serviteurs creusent encore un nouveau puits. C'est à cette période qu'Abimélec va vers Isaac, accompagné de son premier ministre, son chef de son armée. Donc c'est une délégation de hauts fonctionnaires qui vont à la rencontre d'Isaac. Le signe de la transformation de la situation d'Isaac, n'est-ce pas? Eux, ils se déplacent maintenant pour aller voir Isaac. Isaac, peut-être maintenant de manière un peu plus courageuse, demande pourquoi une telle visite. Il rappelle à Abimélec sa décision peu fraternelle de le renvoyer dans le passé. Et Abimélec répond avec franchise, « Oui, nous voyons bien, verset 28, que le Seigneur est avec toi. » Par conséquent, il cherche une alliance avec Isaac, qui est, je te prie, une adjuration, une alliance avec toi. Tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien. et que nous t'avons laissé partir en paix. C'est une façon de le dire. Il passe bien sûr Abimelech ici sur des détails plus problématiques par rapport à son comportement. L'essentiel, comme il le dit, c'est que Isaac est maintenant béni de la part du Seigneur. L'alliance est conclue, il y a un bon banquet, une agape très classe, rien que des plats à fufari, il me semble, et puis ils repartent. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac confirment que le puits qu'ils avaient creusé commence à donner de l'eau. Et l'endroit s'appelle donc Beersheba ou Beersheba, le puits du serment. Donc le récit termine sans aucun doute. Isaac, à la sort de son père, Abraham, est un homme béni par Dieu. Et grâce à cette bénédiction, les peuples autour de lui, y compris des Philistins, cherchent des arrangements pour en bénéficier à leur tour. Être en paix avec Isaac, c'est être également béni. Voilà donc pour notre résumé du contenu. Bravo si vous avez pu tenir jusque-là. Et tout cela démontre pourquoi il y a cette diversion, en quelque sorte, vers Isaac dans ce chapitre. Pas avec Ésaü et Jacob au chapitre 25, pas avec Isaac et Jacob de nouveau au chapitre 27, mais tout d'un coup avec Isaac. Car nous comprenons ici pourquoi, par la suite, Jacob fera son mieux pour saisir pour lui-même cette bénédiction. Et donc, voici trois leçons pour nous, à la lumière de cette histoire. D'abord, première leçon, une foi confiante dépend des promesses de Dieu. Une foi confiante dépend des promesses de Dieu. Car oui, le chapitre commence avec un Isaac, verset 6, qui exerce sa foi, qui dépend des promesses de Dieu. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en immigré dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Que fait-on d'habitude lorsque nous sommes face à une famine? On cherche de quoi boire et manger au plus vite. Et pour manger dans ce contexte-là, il faut de l'eau pour arroser la semence. D'autres partaient justement en Égypte parce qu'il n'y avait pas de famine. On peut donc imaginer la pression sur Isaac dans son entourage. Mais qu'est-ce que tu fais, Isaac? Vas-y, tout le monde y va, non? C'est normal. Il y a de quoi pour tout le monde là-bas. Ici, il n'y a rien. Et que fait-il, Isaac? Il dépend des promesses de Dieu. Il raisonne que Dieu est fiable. Il croit ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas donc qu'il dit « je vais croire aveuglément, malgré tout ». Non, il croit, c'est coûteux pour lui dans ce contexte, mais il a fait le calcul, vous voyez. Dieu est digne de ma confiance. Les promesses de Dieu sont toujours dignes de notre confiance. Jésus envoyait ses disciples à la fin de son ministère, après sa résurrection, en leur disant de faire des disciples de toutes les nations, de les enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il nous appelle, à notre tour, à le suivre. Avec quelle promesse? Fin de l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est de dire oui, oui, tu es digne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es digne de ma confiance. Je dépends de tes promesses envers moi. Que si je te suis, même si je dois perdre ma vie, ultimement, je suis conscient que je gagne ma vie. La foi, donc, s'appuie sur les promesses de Dieu, même lorsque les autres trouvent que c'est ridicule d'agir de la sorte. Vous savez, il y a une église que nous connaissons à Londres qui continue à prier pour notre église ici à Woolway. Et il y a un petit nombre de personnes dans cette église qui ont des postes professionnels dans le marché financier dans la cité de Londres. Et dans ce domaine, souvent ces personnes reçoivent des primes de fin d'année bien conséquentes, 100 fois parfois plus de ce que nous gagnons ici. Évidemment, de telles personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent avec cet argent qu'ils ont gagné. Mais le ministère de cette église à Londres a été fortement aidé au fil des années car quelques-uns de ces personnes avaient l'habitude de se rendre à l'église au moment où ils recevaient leur prime pour soumettre un bon pourcentage au bénéfice du ministère chrétien. Il y a d'autres qui remettent des sommes conséquentes dans des fonds chrétiens qui continuent jusqu'à ce jour à soutenir le ministère chrétien dans le monde entier, même ici en Belgique, encore aujourd'hui. Alors, on peut imaginer la réaction de la part de la camarade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait cette année-ci avec votre prime, mon ami? Nouvelle voiture de luxe? Haha, voyez ce que j'ai dans mon garage. Nouvel appartement à New York, tu veux m'accompagner? Première classe pour qu'on y va ensemble? Non, j'ai aidé un projet d'achat d'immeubles pour un ministère parmi des musulmans, ici à Londres. La foi, c'est de s'appuyer de Dieu, confiant de ses promesses, peu importe ce que cela nous coûte. Peut-être cela vous paraît loin comme exemple dans votre propre contexte, mais le principe reste le même. Nous nous appuyons sur des promesses de Dieu, peu importe ce que cela nous coûte. Hébreux chapitre 11, je pense, fait allusion à ce genre de foi dont Isaac fait preuve. Ça parle principalement d'Abraham. Mais Hébreux 11, verset 9, nous dit « C'est par la foi, Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. » Pourquoi? Car verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils avaient une foi qui dépendait des promesses de Dieu. Deuxième leçon de cette histoire. Ceux qui ont la foi ne sont pas à l'abri de la crainte. Dans un sens, c'est décourageant. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, ce constat? Quelle déception de voir un croyant comme Isaac qui fait une gaffe pareille par rapport à sa femme. Mais ensuite, nous réfléchissons un peu à nous-mêmes. Que oui, c'est possible, n'est-ce pas, de faire quelque chose de courageux, de beau pour le Seigneur, mais ensuite, dans un autre domaine, d'agir avec très peu de courage. De chercher, par exemple, mon propre intérêt au sein de ma famille, plutôt que de se soucier des autres dans la famille. De ne pas donner généreusement de mon temps, de mon argent, de crainte que mon épanouissement dans ce monde-ci diminuera si je fais de cela. De se plaindre de mes bobos et difficultés de santé, car oui, pour finir, même si je sais que mourir en tant que croyant, c'est un gain, en même temps, j'ai peur de la diminution de mes forces physiques. J'aime pas la solitude que ce confinement impose sur moi, et donc je justifie mon attitude très demandeuse par rapport aux autres, ma faiblesse quant à l'alcool ou autre chose. Ou bien de se tourner lorsque je suis seul, lorsque je crains être seul, vers la gratification immédiate à travers des images illicites sur mon PC, sur mon smartphone. Et lorsqu'on se souvient de toutes ces choses-là, c'est, c'est plutôt encourageant, n'est-ce pas, de voir que oui, nos prédécesseurs, dans la foi, ils ont aussi fait preuve de faiblesse, de faille. On va continuer à voir cela dans les chapitres à venir. Ce n'est pas pour excuser de telles choses. Mais oui, merci Seigneur, de tels noms qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas supprimés de la Bible de peur que, oui, ils soient un mauvais exemple. Non, cela continue à mettre en avant la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu, de se servir de telle personne. Et cela nous met en garde, nous, de ne pas croire que nous sommes plus forts que nous le sommes réellement. Nous dit le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Voici donc deux leçons, mais maintenant la troisième leçon, que le texte, je pense, met le plus en avant. La bénédiction que Dieu donne en vaut le coup. Elle est aussi source de bénédiction pour toutes les nations. La bénédiction que Dieu donne en vaut le coup. Elle est aussi source de bénédiction pour toutes les nations. Isaac démarre le chapitre petit parmi des Philistins, au temps d'une famine. Mais le chapitre termine en conformité avec des promesses de Dieu, avec Isaac béni, bien établi dans le pays, sollicité par des Philistins. Et cela parce que le Seigneur le bénissait. Ce que Dieu bénit, ou ce Dieu qui bénit, c'est pour du vrai, réellement. Vous voyez ça dans ce chapitre. Et oui, à ce stade, nous voyons à quel point c'est possible pour des partisans de l'évangile de la prospérité d'entrer en jeu et nous faire croire de manière erronée et cruelle, il faut le dire, que le Dieu qui a fait d'Isaac un homme riche d'un point de vue matériel veut faire de même pour nous si seulement nous avons la même foi. Mais cette bénédiction dont expérimente Isaac fait partie d'une réalisation partielle des promesses qui suivent une trajectoire encore plus grande. Il faut en être conscient. Car si Isaac est béni dans le pays de Canaan, si de sa lignée viendra des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, c'est en Jésus-Christ que nous découvrons l'étendue de ses promesses. Le pays promis ne restera pas figé à une petite parcelle de terre au Moyen-Orient. Non. Hébreux 11, verset 10, que nous avons lu, nous dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, dont celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il visait déjà à cette époque-là quelque chose de plus grand que le pays de Canaan. Et cette cité, cette terre promise ultime, sera peuplée par un peuple de Dieu qui ne se compose plus uniquement de la descendance physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, grâce à Jésus-Christ, toutes les nations sont bénies de manière beaucoup plus conséquente qu'à l'époque de l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué, d'ailleurs, que c'est surtout l'obéissance d'Abraham plutôt que celle d'Isaac qui est mise en avant dans le verset 5. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et encore au verset 24, Dieu dit à Isaac, « Je te bénirai, je te multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Mais cela, en quelque sorte, est étrange si nous connaissons les histoires d'Abraham, car Abraham fait preuve des mêmes erreurs qu'Isaac aussi dans son parcours. Mais l'obéissance d'Abraham, de manière imparfaite, bien entendu, devient dans la Bible, si vous voulez, un modèle d'une obéissance plus grande, parfaite, du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus seul est le Fils obéissance, le descendant ultime d'Abraham. Ce n'est que lui qui peut nous donner encore aujourd'hui une obéissance qu'il nous faut devant le Seigneur qui est saint. C'est par la foi en Jésus-Christ que des hommes et des femmes de toutes les nations, juifs ou non-juifs, deviennent la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, justifié par la foi en son sacrifice pour nous à la croix, là où lui il a porté nos péchés. Et c'est ainsi que nous sommes envoyés à faire des disciples de toutes les nations, tous ceux qui croiront comme Abraham, comme Isaac, car Dieu a donné à Jésus une telle autorité sur toutes les nations, toute l'autorité m'est donnée, disait Jésus, dont Israël fait partie encore aujourd'hui, bien entendu. En tant donc peuple international, nous partageons les bénédictions qui s'étendront un jour sur toute la terre dans la nouvelle création. Dieu nous dit, acte 3, verset 26, a envoyé son serviteur Jésus pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Oui, c'est ça la bénédiction dont nous profitons. Cette bénédiction qui commence aujourd'hui, qui continue pour l'éternité, cette bénédiction en vaut le coup. Alors moi, j'ai entendu parler cette semaine, peut-être vous avez aussi, de Stéphane Thomas, programmeur allemand installé à San Francisco et investisseur en Bitcoin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est de l'argent virtuel. Et la fortune de cet homme est virtuelle à double titre, nous a raconté ce que j'ai lu dans le journal. Elle est en Bitcoin et surtout, il ne peut pas y accéder, car il ne retrouve plus le mot de passe de son portefeuille numérique de Bitcoin, qui représente désormais, compte tenu de la hausse des cours ce dernier temps, 220 millions de dollars. Il ne lui reste plus que 2 essais sur les 10 autorisés pour avoir le bon mot de passe. Au-delà, son portefeuille deviendra inaccessible pour toujours. C'est ça, la règle du jeu. Vous imaginez, il tape les 2 derniers mots de passe, est-ce que ça va marcher? Mais vous savez, notre héritage est plus sûr, plus stable, plus riche, plus long qu'un tel héritage. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de manière à de ne plus jamais avoir peur de notre avenir, pour toujours, de manière à ce que, peu importe notre passé, nous sommes pardonnés, nous sommes en paix avec nos créateurs devant lequel nous devons apparaître un jour. Nous sommes adoptés dans sa famille, réconciliés avec lui, bénéficiaires des promesses données d'abord à Abraham, ensuite à Isaac, ensuite à Jacob. Des promesses qui sont les nôtres par la foi en Jésus-Christ. Et donc nous devons chérir, chers frères et sœurs, ces bénédictions. Nous devons aussi partager la bonne nouvelle de ces bénédictions à toutes les nations. Faisons donc des disciples, soyons des disciples, confiant nous-mêmes dans les promesses de Dieu. Mais faisons également des disciples de toutes les nations. Je vous invite à la prière pour terminer. Quelle joie, notre Dieu, de contempler une nouvelle fois toutes les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ. Nous voulons te louer pour ta grâce envers nous. Nous voulons te louer pour le privilège que nous avons d'être bénéficiaires en Christ de toutes tes promesses. Donne-nous de continuer à croire tes promesses. Donne-nous d'être ceux qui mettent ces promesses en toute première place dans notre vie. Donne-nous donc d'être ceux qui témoignent de la bonté de ces promesses à ceux et celles qui nous entourent. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.